Bonjour, mon nom est Cindy Driscoll de Perle RH. On a envie de vous partager une belle conversation concernant la marque employeur. Bonne écoute.
Bonjour les filles.
Salut Cindy.
Salut.
Comment ça va?
Ça va bien vous autres?
Ça va oui? Super bien.
Cool. On va vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous passionne, littéralement, qui est la marque employeur. On va vous parler de la marque employeur, du marketing RH. Des fois, c'est des termes qui peuvent porter un petit peu à confusion. Nous, on s'est amusé là-dessus, à discuter sur le sujet il y a quelques jours, puis on avait envie de partager ces discussions-là. Donc, pour commencer, je vous présente Aïcha. Aïcha, spécialiste en acquisition de talent, qui est avec nous depuis pratiquement les tout débuts. Et Geneviève,
allô?
Spécialiste en image de marque, notre nouvelle recrue, qui va pouvoir nous aider à aider nos clients en image de marque. Donc, parlons de la marque employeur, les filles.
Oui. Dedans, hein? D'abord, il faut savoir c'est quoi. Hein? C'est difficile de figurer puis de savoir jusqu'où ça peut nous pousser en tant qu'entreprise. Donc, c'est de le définir d'abord.
C'est ça, c'est un terme qui est tellement tendance en ce moment, puis on dirait que tout le monde veut un peu se lancer là-dedans, mais c'est de le faire de la bonne façon. Là. Je pense que c'est ça le point principal qu'on a retenu là, de nos nombreuses discussions à ce sujet-là.
Ce qui est important de savoir sur la marque employeur, c'est tout simplement relié à la promesse. Donc, c'est lié dans notre cas à nous, à l'acquisition de talent, bien entendu, mais on va parler de la marque employeur dans le contexte où on va promettre quelque chose à notre auditoire, à notre produit visé, dans ce cas-ci, qui est le talent. Et par la suite, ça va aller tout simplement à s'assurer que notre promesse est rendue. C'est tout simplement ça, la marque employeur. On va aussi parler du marketing RH.
Hein?
On en a parlé beaucoup de notre côté. Ça ressemble un peu à marque employeur, mais le marketing RH, finalement, on va plus aller le faire vivre à l'interne, à l'externe. On va mettre un plan d'action en place. Donc, pour vous démystifier tout ça un petit peu, là, le marketing RH, c'est directement lié à la promotion de la marque employeur. Donc, on va promouvoir aussi le positionnement de l'entreprise, puis pour par la suite aller vers l'interne et l'externe.
Voilà, je pense que c'est...
C'est tout, hein?
Oui, c'est ça.
C'est tout. Donc, il y a trois volets pour le marketing RH. Évidemment, il y a le diagnostic. Il y a l'élaboration d'une ou des stratégies. Hein. Dans certains cas, on va avoir juste une petite stratégie à aligner. Dans d'autres cas, il faut mettre vraiment un plan d'action un petit peu plus en place. Et évidemment, le déploiement de cette belle stratégie-là qu'on va aller. Donc, c'est important, on va vous parler beaucoup dans les différents médias de pénurie de main-d'œuvre, mais nous, on aime aller plus dans la direction du bonheur au travail. Parce que la pénurie de main-d'œuvre, c'est une chose, mais quand les gens sont mobilisés, sont heureux, mais on ne le vit pas en tant que tel, cette pénurie de main-d'œuvre-là.
Oui, puis je pense qu'on peut donner l'exemple d'ici, un peu chez Perle RH. On n'a pas nécessairement la difficulté à recruter nos employés. Je pense que tu pourrais élaborer là-dessus, mais on a vraiment une belle culture d'entreprise. Puis quand on arrive, moi, ça fait pas super longtemps que je suis ici, puis j'ai été accueillie d'une façon vraiment formidable. Puis on s'attache vraiment rapidement à l'entreprise et à l'équipe. Puis je pense que ça fait partie des éléments importants là, dans ce qu'on va parler aussi aujourd'hui.
Mais c'est sûr que l'attraction en tant que telle, comme tu parles, Geneviève, de que les gens aient envie de s'identifier, bien, tu l'as vécu de l'externe. Tu l'as un petit peu moins vécu parce que nous, on commençait quand tu es arrivé. Mais ce qui est important au niveau de l'attraction de talent, c'est qu'on soit vu, mais qu'on soit surtout nous-mêmes. T'sais, on parlait de la promesse client, promesse candidat. Si on vous aurait présenté quelque chose qui n'était pas nous autres, vous seriez embarqué, mais vous auriez débarqué aussi rapidement. Ça coûte cher.
Ouais, c'est de rester authentique. Il faut vraiment que les candidats ressentent l'authenticité et qu'ils se reconnaissent à travers ça, à travers les valeurs de l'entreprise aussi. Puis ça va vraiment faciliter l'intégration de façon considérable.
Oui, puis c'est ça que je vous ai souvent dit aussi, c'est que c'est super tendance de parler de marque employeur, mais il y a beaucoup d'entreprises qui s'inventent un peu une culture puis qui en font la promotion sur les médias sociaux. Puis finalement, quand les candidats sont sélectionnés puis arrivent à l'entreprise, finalement, ça ne reflète pas ce qui a été promis lors des entrevues, etc. Donc, les employés, dans le fond, ne restent pas puis quittent. Et aussi, ça vient vraiment couper au niveau de la mobilisation aussi des employés. Ils voient que l'employeur véhicule des faussetés au sujet de l'entreprise. Donc, ça aussi, il faut faire super attention à ce niveau-là.
C'est la fameuse expression, il faut que les babines suivent les bottines.
Absolument.
Si moi, je dirais n'importe quoi aux candidats pour qu'ils viennent travailler ici, bien après, c'est pas long, hein? Après une semaine, deux semaines, trois semaines, hey boy, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas bien. Il y a un petit sentiment à l'intérieur qu'il faut écouter avec le temps. Puis plus qu'on a d'expérience sur le marché du travail, plus qu'on le ressent, cette petite voix-là, puis on fait pas comme tais-toi, t'es pas bien là-bas. Fait il faut vraiment qu'on ait un bon feeling dès le jour 1, finalement.
Puis même à l'embauche, tu sais, la constance, c'est super important. Il faut que, quand qu'on dit oui à une personne, que ce soit valide pour les autres personnes aussi, ou que si on dit qu'on va faire quelque chose, qu'on le mette en place vraiment concrètement, puis pas juste de dire des paroles en l'air, puis de pas appuyer avec des faits concrets. Les gens vont ressentir ça, ils vont rester avec un goût amer, puis ils vont quitter avec une mauvaise impression de l'entreprise, même si la personne n'est pas restée longtemps. C'est encore pire. L'expérience candidat et salarié n'a pas été optimale à ce niveau-là, puis c'est ça qui va rester.
Oui, puis c'est important d'avoir cette expérience-là jusqu'à la fin, comme tu le mentionnais, parce que c'est un peu comme avec nos clients. Un client insatisfait va faire des ravages, là, va écrire un peu partout qui n'est pas satisfait, mais c'est pareil pour les candidats, alors que souvent, justement, 10 employés satisfaits vont parler peut-être un peu moins, vont faire moins de bruit que quelqu'un qui va partir fâché ou en mauvais terme.
On aime ça déranger, mais on aime ça déranger positivement, puis c'est le temps de se positionner. Puis ça en fait partie du marketing RH, en fait, ce qui est important quand on veut implanter une stratégie marketing, puis de plus en plus, au niveau des ressources humaines, les spécialistes en RH vont devoir à se passionner sur le sujet ou aller chercher des consultants qui vont vouloir aider les ressources humaines à implanter un positionnement. Donc, il y a plusieurs étapes. Je vais vous en glisser quelques-unes. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parlera pas complètement de la marque employeur parce qu'on pourrait passer des heures ici. Quelques petits cues du côté du marketing RH, comment l'implanter. Donc, on va commencer par définir le positionnement de la marque employeur actuelle. Donc, pour y arriver, on va faire des petits sondages, on va aller voir les employés, on va aussi contacter des candidats qui ont passé dans le processus du recrutement pour voir leur expérience candidat, ils l'ont vécu comment. Est-ce qu'ils soient retenus ou qu'ils ne soient pas, c'est important d'avoir leur input pour par la suite améliorer les processus.
Puis c'est définitivement une richesse. T'sais, ils vont tellement donner d'informations, ils l'ont vécu. Quoi de mieux que quelqu'un qui a vécu l'expérience pour en parler puis donner son opinion là-dessus? Il faut prendre en considération l'opinion des gens qui l'ont vécu pour après ça, justement, mettre le plan d'action pour soit rectifier le tir ou optimiser encore plus pour que les gens ressentent ça au quotidien, dans tous les départements, dans tous les types de postes. Ça vient vraiment rendre l'expérience candidat encore plus intéressante.
Ah oui, puis impliquer en plus les employés, je pense que c'est la clé aussi d'une bonne culture d'entreprise. Le plus les employés sont impliqués dans ce genre d'initiative-là, le mieux, le plus ils vont être heureux dans le fond de travail.
Tout à fait. Puis c'est de ne pas avoir peur de faire ces sondages-là, hein, parce que des fois, il y a certains clients chez qui on va faire des interventions qui vont dire « Ah, ben moi, je la connais, ma culture, je la connais, l'opinion de mon auditoire interne, mon auditoire externe. » Prenons rien pour acquis. C'est important vraiment d'aller de l'avant, de poser des questions pour enrichir le sujet. Donc, on va définir, suite à la collecte de ces informations-là, le positionnement qu'on veut avoir. Donc, on sait où est-ce qu'on se positionne, on veut choisir où est-ce qu'on veut aller, comment on veut s'améliorer. Puis après ça, on va embarquer vraiment dans le plan stratégique. Donc, on va concevoir, on va ajuster, planifier ce qu'on veut mettre en place, tout simplement. Fait que ça va passer par l'interne. On a révisé les processus internes, mais on va les améliorer pour le futur. Puis pour l'externe, bien évidemment, on va parler beaucoup de l'expérience candidat, comme on vient tout juste d'en discuter. Faut pas avoir peur d'innover, faut pas avoir peur de s'améliorer en ressources humaines. On fait affaire avec des défis qui sont multigénérationnels. Si on stagne, ça fonctionnera pas. Et par la suite, on va tout simplement déployer le fameux positionnement par des activités internes et externes. Donc, on va avoir besoin, puis on va en parler un petit peu plus tard avec toi, Geneviève, on va avoir besoin de le définir, comment on va l'afficher à partir de l'interne et à partir de l'externe. Donc, on parle de médias traditionnels, on parle des médias un petit peu plus innovants. On va en discuter un petit peu. Je voulais vous parler un petit peu des trois types de candidatures intéressantes. C'est sûr que c'est beau de recevoir plein de CV quand on affiche un poste, mais on veut avoir des candidatures qui sont pertinentes. Donc, il y a trois types de candidatures pertinentes qu'on vise en tant que telles quand on est en recrutement. Évidemment, on parle des recherches des gens qui sont en recherche active, donc des gens qui sont informés, qui veulent en savoir plus sur l'entreprise, mais qui appliquent qui appliquent, qui ont besoin de travailler, mais en même temps, ils veulent pas travailler à tout prix au sein d'une organisation. Donc, ils vont se renseigner sur l'environnement. Ils connaissent-tu des gens qui travaillent là? Ça ressemble à quoi? Ça, c'est les gens qui sont en recherche active. Mais évidemment, tu as des gens qui vont appliquer sans prendre aucune information. Puis quand tu les contactes en entrevue téléphonique, ils vont tout simplement dire... Vous êtes de quelle organisation?
Ils ne se souviennent même plus sur quoi ils ont appliqué. Ils en ont tellement envoyé de CV que...
C'est ça.
C'était quoi déjà?
C'est pas les candidats qu'on vise en tant que tels. Fait que allons un petit peu plus loin que ça. Il y a les candidats qui sont passifs, mais opportunistes. On a tous été déjà en recherche d'emploi où on gardait juste les yeux ouverts, on s'affichait, on allait chercher un petit peu d'informations sur les différents médias, des traditionnels Jobilico, Indeed, Monster dans le temps. Donc, le RH, la toile des recruteurs. Mais on recevait les alertes d'emploi, mais on n'appliquait pas nécessairement tant qu'on n'avait pas un coup de cœur avec l'organisation. Parce qu'on est bien où ce qu'on est, on n'est pas malheureux, mais est-ce qu'on est prêt à bouger? Il va falloir que ça soit vraiment cool comme environnement. Puis il y a le fameux marché caché. Donc, les candidats. Avez-vous déjà entendu parler du marché caché, les filles?
Mais c'est un peu comme la chasse de tête, là. Nous, un service qui est quand même super populaire en ce moment. Mais je peux te laisser développer un peu plus là-dessus. C'est pas mon expertise.
C'est d'aller fouiner pour trouver les perles rares.
Exactement, exactement. C'est sûr que c'est des gens qui sont ciblés par chasse chez des compétiteurs. C'est des plug and play, comme on dit. Hein? Donc, on va chercher quelqu'un, on sait qu'il va être rentable à partir de la semaine 2, mais les objectifs sont quand même assez élevés quand on est rendu là pour rentrer quelqu'un. Donc, c'est des sceptiques, par exemple. C'est des gens qui sont vraiment bien où ils sont. Ils n'ont aucune recherche d'emploi entamée. Mais là, il va falloir que tu leur vendes l'idée que c'est mieux ailleurs. Tu vas faire plus d'argent. L'environnement est le fun. Puis là, eux autres vont commencer à faire des recherches. Mais avant même de parler aux chasseurs de têtes, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller regarder tout ce que l'entreprise a posté. Puis après ça, on va pouvoir discuter. Ils n'ont pas de temps à perdre. Fait que ça, c'est les trois types de candidatures dont je voulais vous parler parce que c'est les plus pertinentes. Les autres candidats qu'on reçoit, ben on perd du temps. Donc, on focus sur ces trois-là. Fait qu'il faut y aller vraiment pour pouvoir bien se positionner, pour aller chercher ces candidats les plus intéressants-là. Il faut y aller par baby steps. Fait qu'il faut être attrayant. Il faut surtout s'amuser en recrutement puis en acquisition de talent, en ressources humaines, en marque employeur. Donc, il faut changer un petit peu les choses.
Puis si je peux me permettre, le dernier type de candidat est vraiment très difficile à accrocher parce que, sans vouloir être prétentieuse, je me reconnais un peu là-dedans. Ça m'arrive quand même régulièrement de me faire solliciter par différentes entreprises parce que il y a des difficultés en recrutement puis... Pour trouver des spécialistes qui sont qualifiés pour faire ce type de mandat-là, il faut vraiment aller les chasser, puis de plus en plus. Puis moi, ça, je suis toujours flattée naturellement de me faire approcher, sauf que mon sentiment d'engagement vers l'entreprise est tellement puissant, je suis tellement bien, l'équipe est tellement le fun que c'est difficile de vendre la valeur ajoutée, puis d'aller chercher ces gens-là. Fait qu'il faut vraiment miser sur les forces de l'entreprise, les valeurs. Il faut que ça rejoigne le candidat.
Mais tu vois, Aïcha, on a travaillé sur la culture d'entreprise ensemble. Tu as été impliquée à travers le processus du début jusqu'à la fin. On a fait la conception de Mural. On travaille quotidiennement dans le bonheur au travail au sein de Perle RH. Puis, à chaque fois que tu te fais solliciter, tu fais comme « Hey!
» Je le dis.
On m'a sollicité. Hey, c'est le fun. C'est le fun, les filles. On peut peut-être les aider dans leur recrutement, ils sont venus me voir. Fait que c'est sûr qu'ils aiment mes personnalités. Mais c'est un petit peu grâce, justement, à tout ce qu'on promouvoit sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, on te remercie, puis on remercie tous les employés d'être aussi loyaux, mais ça fait partie de vos valeurs en tant que telles quand vous venez ici.
Oui, puis c'est ça qui te rend aussi attrayante sur le marché, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est parce que tu es super impliquée, puis il y a aussi le fait que ça paraît que tu es mobilisée par ton implication, puis ce que tu partages aussi sur les médias sociaux. Fait que c'est sûr que les entreprises veulent avoir une Aïcha dans leur équipe.
C'est l'exemple parfait. On va en parler un peu plus tard, mais de l'ambassadeur de l'entreprise. T'sais, la personne va être impliquée, mais c'est que c'est même pas forcé. C'est juste naturel. Tu es tellement imprégné par ton environnement de travail. Tu es passionné par ce que tu fais que tu le fais naturellement. Tu te fais solliciter, tu apprécies, sauf qu'en même temps, tu le sais que tu partiras pas. Mais c'est à plusieurs niveaux, mais c'est exactement ce type d'employé-là que les employeurs veulent avoir dans leurs entreprises, puis ces gens-là vont souvent perdurer. On veut développer leurs compétences, on veut investir dans ces gens-là. Donc, définitivement, c'est les gens qui sont cachés, c'est les perles rares, mais faut les trouver.
Puis comment on crée ça, dans le fond, ce genre d'ambassadeurs-là?
Bien, d'abord, il faut les trouver. Il faut, faut vraiment que l'expérience soit optimale de la candidature jusqu'à l'embauche, puis même, je dirais, jusqu'à l'entrevue de départ. Parce que ces gens-là vont vivre une expérience avec l'entreprise. Il faut que l'entreprise investisse, les implique, leur donne le pouls de tout ce qui se passe. Puis plus ils leur donnent d'informations, puis ces gens-là vont se sentir vraiment impliqués à ce niveau-là, puis ils vont pouvoir, après ça, véhiculer le message à travers leur réseau personnel. Ça, c'est une richesse incroyable de pouvoir... Tu sais, les gens, ils viennent seuls, mais ils viennent avec un bagage de personnes en arrière qui sont des références, qui sont des candidats potentiels peut-être pour l'entreprise. Donc, par exemple, on peut afficher les postes à l'interne, puis ces gens-là vont pouvoir les propulser sur leurs réseaux sociaux, en parler à leur famille, puis quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis là, après ça, ça facilite l'embauche, ça facilite le fit gestionnaire-employé, parce que la personne qui réfère quelqu'un connaît l'entreprise, connaît l'entreprise. connaît l'équipe, connaît l'environnement de travail, puis va savoir, par exemple, que la personnalité, si moi je te réfère Geneviève, je sais que mais ta personnalité, elle fit donc bien avec Cindy, puis tu fitterais tellement bien dans la compagnie, puis là, ça facilite l'intégration. Toi, en plus, on s'entend qu'arriver dans un nouvel emploi, c'est stressant, mais là, tu connais déjà quelqu'un, je t'ai déjà briefé sur l'entreprise, tu vas déjà avoir des petits cues sur ton poste. Ça facilite nettement l'intégration, puis après ça, ça rend le poste beaucoup plus rentable à long terme parce que la personne va avoir vraiment vécu une expérience beaucoup plus optimale. Puis là, la personne peut perdurer dans l'entreprise de façon considérable.
Mais si je peux me permettre, tu vois, il y a pas de programme de référencement encore. T'sais, nous, on est en train de fleurir, là, si on veut. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas mis de l'avant encore, qu'on est en train d'implanter. Puis déjà, là, même sans cette prime monétaire-là, on peut arriver avec des résultats extrêmement intéressants. Puis c'est ce qui fait en sorte que nos happy hours entre nous autres, on a vraiment du fun. Là. C'est oui. Vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment le programme ambassadeur qui va mousser en tant que tel la culture de l'organisation. Puis qu'à tous les jours, on fait comme « Ah, c'est donc bien le fun, on s'en vient travailler. »
Ça en fait partie, l'esprit d'équipe, ça fait partie de ce programme-là. Il faut justement consolider l'esprit d'équipe à l'interne pour que ça se transpose puis que ça se vive à l'extérieur par la suite.
Mais tu sais, ici, dans le fond, cette culture-là existe déjà, donc le programme ambassadeur arrive après pour récompenser un peu, mais ça existe déjà, donc c'est facile d'embarquer là-dedans. On est déjà là-dedans.
C'est naturel.
C'est naturel, ça s'est fait automatiquement par les belles personnalités puis l'esprit d'équipe qui règne ici aussi.
Mais si tu peux me permettre, il a fallu qu'on promouvoie ce qu'on faisait à l'externe pour que tu puisses voir que dans ton cas à toi, puis dans le cas de d'autres employés qui sont récemment embauchés, pour que tu puisses voir, est-ce que je me vois vraiment travailler avec eux autres? Fait qu'il y a du marketing RH externe qui a été fait.
Absolument.
comment on s'y prend?
Bien, en fait, c'est pas compliqué. Bien, c'est pas tellement compliqué. C'est un peu comme on ferait pour le marketing de nos produits ou de nos services. T'sais, c'est important de dresser un profil, mais là, je dirais pas client, c'est un profil candidat. Puis après ça, avec ce profil-là, on est capable de diffuser l'information sur les bons médias pour aller interpeller les candidats potentiels ou des gens qui pourraient être intéressés à venir travailler avec nous. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est de savoir un peu c'est quoi leurs habitudes d'information, comment ils veulent recevoir aussi l'information au sujet des postes disponibles, quel type de candidat dans les trois que tu as énumérés précédemment. Puis par la suite, ben là, on décide c'est quoi le ton à employer. Nous ici, on a comme un certain type de personnalité qui est prédominante au sein de l'équipe. Fait que c'est sûr qu'on a un ton peut-être un petit peu plus joueur, friendly aussi.
Mais ça, c'est lié aux tests psychométriques que nous, on fait passer, des tests qui sont extrêmement complets, qui nous permettent de faire des roues d'équipe pour s'assurer qu'on ait les mêmes valeurs, qu'on ait envie de travailler puis avoir du plaisir. C'est pas toutes les organisations. Puis on pourra en parler dans un prochain podcast au niveau des tests psychométriques. C'est vraiment passionnant. Mais reste que, oui, on a des couleurs prédominantes. Puis ici, il faut avoir du fun puis il faut être sociable. Si on n'est pas sociable, c'est baby steps.
Mais l'environnement ne sera pas nécessairement intéressant pour la personne qui justement s'identifie pas au type de personnalité que nous, on a à l'interne, d'où pourquoi c'est pertinent des fois d'aller creuser un petit peu plus loin au niveau des tests.
On le fait initialement égoïstement, si on veut, pour nous, parce qu'on veut avoir quelqu'un qui nous ressemble. mais c'est pas un service à rendre non plus à la personne qui rentre, qui s'adapte pas bien avec ce type de personnalité. Elle sera pas bien sur du long terme.
Non, puis cette personne-là a peut-être quitté un emploi en pensant finalement être heureuse, puis finalement, ça va peut-être être pire, donc... C'est de l'information gagnant-gagnant, puis c'est toujours ça l'optique. Là. On veut engager des gens pour qu'eux soient bien, mais pour que nous, on soit bien avec eux aussi. Donc, c'est toujours du win-win. C'est mais ça qu'il faut viser.
Ça fait partie justement du diagnostic. Il y a un travail d'emblée qui a été fait pour connaître les besoins au niveau de ce qu'on veut comme équipe ici chez Perle RH, puis ça facilite après tout ce qui est diffusion de ça sur les médias sociaux, par exemple, ou sur les autres types de canaux qui existent, où ce qu'on peut parler de ça. Mais pour ça, le travail était déjà fait, fait que c'est beaucoup plus facile après ça de créer une stratégie.
Quand tu travailles justement sur une stratégie image de marque, Geneviève, tu regardes le client. C'est quoi son image? Qu'est-ce qu'ils veulent projeter? C'est quoi le ton? Sur quels médias sociaux tu vas suggérer à ton client de faire des affichages? Mais concrètement, ça ressemble à quoi? Si tu aurais à décrire deux, trois petits conseils à donner à ton futur client demain matin que tu as déjà donné à tes clients actuels ou passés.
Bien, c'est sûr qu'au niveau du contenu, c'est super différent d'une entreprise à l'autre. Encore une fois, ça dépend de qui on veut cibler. T'sais, si on veut cibler un employé qui sort de l'école, qui est plus dynamique, bien, on va s'adapter en fonction de ça. Alors que si on veut cibler quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a ses habitudes où il s'informe, c'est plus les journaux, ça va être super différent. Donc, c'est sûr qu'il y a un travail au niveau de la stratégie pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais par la suite, moi, je trouve que le point qui est le plus important, c'est de, encore une fois, impliquer les employés qui existent déjà, qui sont déjà là au sein de l'entreprise. Fait que c'est d'essayer de leur demander qu'est-ce qu'eux autres, c'est quoi leur bonne expérience au sein de l'entreprise, puis qu'est-ce qu'ils pensent qui est valorisant, puis qui fait en sorte qu'il est différent de la compétition, pourquoi on voudrait travailler, mettons, chez Perle RH. Ça rend le plus concret, puis les impliquer aussi dans le contenu qu'on diffuse. S'ils peuvent utiliser leur plateforme aussi, leur page personnelle pour pouvoir en faire la diffusion aussi, je pense que c'est super important. Ça serait une tactique qui serait intéressante pour les clients, puis qu'on utilise ici chez Perle RH, puis chez les différents clients qu'on a travaillé aussi dans le passé.
Puis, si je peux me permettre, avec le temps, ça devient un automatisme. Quelqu'un qui est vraiment engagé dans l'entreprise va automatiquement avoir envie de partager cette information-là à son réseau, puis aux gens qu'il connaît, parce qu'il est tellement engagé que... Mon Dieu, ça serait donc bien le fun que toutes les gens que je connais viennent travailler avec moi. Fait que là, t'as envie de propulser ça partout. Puis que dès que quelqu'un dit « Ah, moi, ça m'intéresse », ben OK, go, on va voir si ça peut fitter. Puis la balle est lancée. C'est de lancer des perches, mais ça se fait vraiment naturellement. Comme nous, chaque fois qu'on a soit des articles ou des postes à combler, toute l'équipe, on le fait automatiquement. Puis on nous a jamais demandé, tu sais, vraiment de le faire. C'est juste, ça nous tente. Puis on le fait. On arrive le matin, on voit ça. On dit OK, go. Puis on le lit. Ça nous intéresse. Puis on reste constamment à l'affût de ce qui se passe dans la compagnie. Puis là, après, tu le propulses partout. Puis ça fait une énorme visibilité pour l'entreprise qui, au bout du compte, coûte quoi? Un sourire, un peu d'investissement dans des happy hours pour consolider l'équipe. Puis là, les gens, ils propulsent ça partout.
Mais c'est ce qui fait toute la différence. Puis c'est ce qui permet aussi à Geneviève de se coucher à terre, prendre une photo. Fait comme, ah, c'est hot, c'était écœurant, cette photo-là. Oui, effectivement. C'était spontané. C'est nous autres. On a un guideline, mais après ça, ça se fait naturellement. Puis les clients qui travaillent avec nous ont beaucoup gagné de ce côté-là. Et tu sais, c'est un service qui va être promu. On va promouvoir dans les prochaines semaines. Mais il va y avoir de la formation aussi. Donc, n'importe qui peut apprendre comment ça fonctionne. N'importe qui peut essayer de le faire. Puis par la suite, s'ils réalisent que c'est un petit peu trop, l'investissement ne vaut pas la chandelle, bien, à ce moment-là, ils peuvent le donner en sous-traitance. Donc, il y a différents fournisseurs qui l'offrent. Nous, principalement, c'est la stratégie qu'on met derrière pour pouvoir les aider à promouvoir ce service-là. Puis par la suite, de faire une mini-formation pour qu'ils puissent comprendre. Si moi, j'ai été capable de comprendre c'est quoi un podcast, tout le monde est capable
tout
de comprendre.
Tout le monde
est grec. On va tous pouvoir vous expliquer.
Je te laisse le mot de la fin, Geneviève.
Ben oui, ben en fait, j'avais rien préparé pour le mot de la fin, donc je suis un peu prise par surprise, mais en fait, C'est ça, fait que c'est vraiment un sujet qui est super tendance en ce moment. Puis, nécessairement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions sur la marque employeur puis le marketing RH. Fait qu'on est toujours disponible à répondre à vos questions à ce sujet-là.
Puis on est de plus en plus dans les différents événements.
Oui.
Donc, n'hésitez pas à nous accrocher, venir piquer une jasette. C'est vraiment un sujet qui nous passionne.
Merci.
Bonne journée.
Bye-bye.
Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On vous invite à nous suivre sur YouTube, Spotify, LinkedIn, Facebook, Instagram et ainsi de suite.